Première partie, nous avons surtout étudié ce qui concernait les commençants, mais comme sans doute parmi vous, plusieurs ne se sentaient pas concernés par cette partie-là, je vous ai dit, on va arriver pour étudier la voie des avancés et des parfaits. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alors nous allons continuer par ce qu'on appelle la seconde conversion. Alors d'abord, existence de cette seconde conversion. Donc la seconde conversion, c'est l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler la vie illuminative, donc le deuxième âge de la vie spirituelle. La Sainte Écriture rappelle souvent, même à ceux qui sont en état de grâce, la nécessité d'une conversion plus profonde vers Dieu. Notre Seigneur lui-même parle à ses apôtres qui le suivent, depuis le début de son ministère, de la nécessité de se convertir. Et pourtant, s'il parle à ses apôtres, c'est qu'apparemment, ils sont déjà convertis, puisqu'ils le suivent déjà. Saint Matthieu, par exemple, le rapporte au chapitre 18e, verset 3. Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si vous ne vous convertissez. C'était un moment où les apôtres cherchaient à savoir quel serait ou quels étaient parmi eux l'apôtre le plus grand. Et en ce moment-là, notre Seigneur donc leur demande de se leur prend comme modèle un petit enfant et leur demande de se convertir. Alors Jésus parle ici donc à ses apôtres qui le suivent depuis longtemps, puisque trois d'entre eux l'ont déjà vu transfiguré au mont Tabor. Ils sont donc en état de grâce. Et pourtant, il leur parle de la conversion. De même, juste avant la Passion, à nouveau, les apôtres se posent la même question pour savoir qui d'entre eux sera le plus grand, où est le plus grand. Et notre Seigneur en profite pour dire à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti. Donc ça voulait dire qu'il ne l'était pas encore. Et pourtant, il suivait déjà notre Seigneur. C'est donc bien qu'après cette première conversion, après avoir tout quitté pour suivre notre Seigneur, il existe même une seconde conversion. Également, la liturgie nous invite à cette conversion, puisque chaque année, aussi bien pendant l'Avent que pendant le temps de Carême, la liturgie rappelle ceci, « Déchirez vos cœurs et convertissez-vous au Seigneur votre Dieu. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur. » Et là, l'Église ne parle pas, ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont en état de péché mortel, mais à tous les fidèles. Donc, deuxième preuve sur l'existence et cette nécessité de la seconde conversion. Et ensuite, tous les auteurs spirituels se retrouvent unanimes pour affirmer la nécessité de cette seconde conversion. Par exemple, le père Lallemand, jésuite, dans son livre « La doctrine spirituelle », il a vécu au XVIIe siècle, disait ceci, « Il arrive d'ordinaire deux conversions à la plupart des saints et des religieux qui se rendent parfaits, l'une par laquelle ils se dévouent au service de Dieu, l'autre par laquelle ils se donnent entièrement à la perfection. Cette seconde conversion n'arrive pas à tous les religieux et c'est par leur négligence. » Donc si elle n'arrive pas, c'est par leur négligence, ça veut dire qu'il est normal que dans la vie spirituelle, il y ait au moins ces deux conversions. Alors, nécessité de cette seconde conversion, le père Lallemand à nouveau, la plupart des religieux, même bons et vertueux, ne suivent dans leur conduite particulière et dans celle des autres que la raison et le bon sens. C'est déjà bien pour se guider de faire appel au bon sens, et puis à sa raison, mais il faut aller plus loin. En quoi plusieurs d'entre eux excellent? Cette règle est bonne, mais elle ne suffit pas pour la perfection chrétienne. Il faut aller plus loin. C'est ainsi, par exemple, que Mgr Titien Malleret, quand il parlait des enfants, il parlait que les parents devaient avoir une sainte imprévoyance concernant le nombre d'enfants. Alors, il y a toujours un équilibre à avoir, mais ça montre que c'est sûr qu'avec un esprit surnaturel, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec la simple raison. Il ne faut pas toujours faire appel uniquement qu'à sa raison. Il y a aussi la confiance en Dieu, et à l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi cet état de choses? Eh bien, en raison du nombre fort peu nombreux de parfaits. Et comme il dit, c'est tout à fait vrai, il y a toujours une tendance au mimétisme dans une communauté religieuse. C'est vrai aussi d'une chapelle. Une chapelle où les fidèles cherchent vraiment à se sanctifier. Eh bien, il y a une émulation mutuelle. Dans une chapelle où les gens sont tièdes, eh bien, cette tiédeur est communicative. Donc la ferveur comme la tiédeur sont communicatives. Et c'est pour nous justement une grande grâce, c'est sûr, en cette crise de l'Église, d'avoir surtout un noyau de fidèles fervents, de ceux qui ont compris la nécessité de la perfection et qui ont le désir de se parfaire. Et on le remarque en particulier quand on a des contacts avec des prêtres qui sont encore dans leur paroisse. Ils ont réussi à garder leur paroisse, mais en faisant le ministère auprès de leurs paroissiens, ils constatent qu'ils ont beaucoup plus de mal. Alors, ils ont beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, mais par rapport à leurs paroissiens, le travail est plus difficile, parce qu'ils sentent moins, parmi eux, ce souci de la perfection. Et l'auteur de poursuivre, le Saint-Esprit attend pendant quelque temps qu'ils entrent dans leur intérieur et que, remarquant l'action de la nature et celle de la grâce, ils se disposent à suivre sa conduite. Mais s'ils abusent du temps et de la faveur qu'il leur offre, ils les abandonnent à la fin à eux-mêmes et les laissent dans cette obscurité, dans cette ignorance de leur intérieur, dans laquelle ils vivent désormais parmi de grands dangers pour leur salut. Donc ça va loin, parce que même il dit que pour des gens qui se sont donnés une foi au bon Dieu, en particulier donc des religieux, s'ils ne cherchent pas à devenir meilleurs, ils risquent fort de tomber dans la tiédeur et ainsi de se perdre. Donc cette seconde conversion n'est pas facultative. Alors d'où vient encore la nécessité de cette seconde conversion? Eh bien elle vient de tout ce qui reste encore d'égoïsme en nous, au moins inconscient. On oublie que la nécessité de la perfection, de la fidélité dans les petites choses. Le jour se compose d'heures et les heures de minutes, et c'est à chaque instant qu'il faut chercher à se perfectionner. Le Père Lallemand affirme « Nous faisons en un jour plus de 100 actes d'orgueil sans pour ainsi dire y prendre garde. Et la ruine des âmes vient de la multiplication des péchés véniels qui causent la diminution des lumières ou des inspirations divines. » Et alors, pour arriver à nous transformer, bien une superficielle oblation de nous-mêmes n'est pas suffisante. Il faut plus. Il faut une véritable conversion. La seconde conversion est encore liée et encore nécessitée en raison des défauts des commençants. Celui qui commence à rentrer dans la vie spirituelle peut avoir certains défauts. Et on peut dire que les 7 péchés capitaux se retrouveront là, d'une façon, dans l'ordre spirituel. Une forme de sensualité spirituelle, de paresse spirituelle et d'orgueil spirituel. Comment se manifeste cette sensualité spirituelle? Eh bien, par ce qu'on pourrait encore appeler la gourmandise spirituelle, c'est-à-dire une attache immodérée des consolations de Dieu dans la prière. Alors, comme très souvent le bon Dieu, au départ, nous accorde ses consolations, on a tendance à y accorder trop d'importance. Et en ce moment-là, c'est un désordre. Parce que finalement, ce serait la marque encore d'une recherche de nous-mêmes dans nos rapports avec Dieu, alors que c'est le bon Dieu qu'on doit rechercher. Ensuite, conséquence de cette gourmandise spirituelle, bien, c'est souvent la paresse spirituelle qui suit. Pourquoi? Eh bien, si on est attaché aux consolations de Dieu et non pas à Dieu lui-même, lorsque le bon Dieu retire ses consolations, eh bien, à ce moment-là, on abandonne sa pratique religieuse, ou au moins, on prie moins, alors qu'on devrait prier davantage. Et c'est ce qu'on appelle l'assédie, ou paresse spirituelle. Donc, c'est une certaine impatience, ou un certain dégoût même, dans le travail de sanctification, qui pourrait conduire soit à la malice ou au découragement. Et ensuite, il y a également l'orgueil spirituel. Lorsque la gourmandise spirituelle est satisfaite, et que toutes les choses vont à notre goût, alors en ce moment-là, on s'imagine parfait. Ça y est, on est arrivé. Et alors, on se prévaut de sa perfection. On peut juger parfois sévèrement les autres. On se pose en maître, alors qu'on n'est encore qu'un pauvre disciple. Donc, 3 défauts classiques qu'on rencontre dans la vie spirituelle au départ, lorsque le bon Dieu nous accorde ses consolations et lorsqu'il les enlève. Soit une sensualité spirituelle, une paresse spirituelle, ou une forme d'orgueil spirituel. Ensuite, à cela pourrait s'ajouter une forme de suffisance, de jalousie, d'envie, ou d'empressement naturel à se rechercher, à se faire centre, à attirer les âmes à soi au lieu de les attirer à notre Seigneur. Et pour lutter contre ces défauts, même si la mortification est nécessaire, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut que Dieu lui-même y mette la main comme un bon chirurgien, selon les termes de saint Jean de la Croix. Il porte lui-même le fer et le feu dans nos plaies pour y enlever les humeurs ou tumeurs malignes. C'est ce que disait saint Jean de la Croix dans La Nuit Obscure, au livre 1er, chapitre 3e. Alors, qu'arrive-t-il dans cette période de la vie spirituelle ? Eh bien, trois signes marquent cette période, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Une aridité sensible prolongée, c'est-à-dire qu'on n'a plus de goût dans la prière, on n'a plus le sentiment de la présence de Dieu au moment où on prie. À cela s'ajoute un vif désir de Dieu et de son règne, et une crainte de l'offenser, qui montre bien qu'il ne s'agit pas de la tiédeur. Si la personne était tiède, elle n'aurait plus ce désir de Dieu. Donc le fait qu'elle maintienne, qu'elle ait en elle encore ce désir de Dieu, c'est bien le signe que c'est une forme de purification. Et ensuite, troisième signe, peut-être encore plus difficile à discerner, c'est l'inclination à regarder notre Seigneur du simple regard. Donc au lieu d'avoir des considérations multiples, comme au début dans la vie spirituelle, on a besoin d'un livre, on a besoin de multiplier ces considérations pour arriver à se rapprocher de Dieu. Là, un simple regard vers Dieu suffit à combler notre âme. Alors très souvent dans cet état, l'âme connaît une certaine angoisse et une certaine anxiété face à la poursuite de Dieu. Parce que justement, le bon Dieu ne se manifeste pas à elle comme auparavant. Et alors elle est comme perdue. L'âme a un tel désir de Dieu qu'elle le cherche avec empressement, mais notre Seigneur semble se cacher. Alors que doit faire l'âme en cet état ? Tolère répond, elle doit faire ce qu'a fait la Cananéenne, aller à Jésus et crier à haute voix, c'est-à-dire avec un ardent désir, « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi ». Mais ensuite l'auteur précise que Jésus se comporte parfois avec l'âme comme avec la Cananéenne. Il fait comme s'il n'entendait pas ou ne voulait pas exaucer. C'est alors le moment d'insister comme le fit la Cananéenne sous l'inspiration divine. « Ah, mes enfants, dit-il, combien alors le désir dans le fond de l'âme doit devenir plus vif et plus empressé. Même si Dieu refusait le pain, même s'il déniait la qualité d'enfant, il faudrait lui répondre comme la Cananéenne. Ô Seigneur, il arrive cependant parfois que les chiens soient nourris des miettes qui tombent de la table de leur maître. » On voit bien cette attitude de notre Seigneur par rapport à la Cananéenne. Il avait bien compris ce que la Cananéenne désirait. Et il n'a pas voulu la satisfaire tout de suite pour éprouver sa foi. Et c'est en ce moment-là que la Cananéenne aurait très bien pu partir en disant « Bon, parce que c'est comme ça, je m'en vais. » Eh bien non, elle a insisté. Et parce qu'elle a insisté, notre Seigneur a fini par l'exaucer et reconnaître que sa foi était grande. « Ô femme, ta foi est grande, que ce que tu as cru t'arrive, que ce que tu veux te soit accordé. » Et c'est ce que le bon Dieu nous répondra également si nous savons patienter. Mais la difficulté, c'est qu'on manque de foi. Alors très souvent, quand le bon Dieu se cache, eh bien, on s'en va nous-mêmes. Parce qu'on a... Cette purification fait mal et alors on la refuse. Donc ça montre bien la nécessité de la persévérance dans la vie spirituelle et que cela est lié à une forme de renoncement, de détachement de nous-mêmes et en même temps d'abandon et de confiance en la divine providence. On n'a pas assez confiance en Dieu. On croit que parce qu'il ne nous regarde plus, il ne nous aime plus et que c'est fini. Et c'est comme ça que parfois on abandonne tout. Donc première caractéristique de cet état de la vie spirituelle, c'est d'abord une grande sécheresse, mais qui est jointe à un grand désir de Dieu. Le bon Dieu veut purifier à ce stade de la vie spirituelle notre sensibilité. En général, en psychologie, au moins depuis saint Thomas d'Aquin, on divise l'homme en deux parties. Il y a la partie plus spirituelle et la partie sensible dans l'homme. Le but de cette seconde conversion, c'est de purifier la partie sensible de notre être. Et alors, pour purifier cette partie sensible, il est nécessaire que nous n'ayons plus de consolation sensible. Et alors ensuite, on va arriver au second âge de la vie spirituelle, Mais ensuite, il faudra essayer de purifier les facultés supérieures, l'intelligence et la volonté. Et c'est la raison pour laquelle les tentations que l'on a en fin de vie spirituelle, en général, c'est des grandes tentations contre la foi, l'espérance et la charité qui ont leur siège dans l'intelligence et dans la volonté. Donc au début, c'est surtout dans la sensibilité, et puis ensuite, c'est plus dans la partie spirituelle de notre être. Alors en ce moment-là, comme le bon Dieu veut purifier notre sensibilité, en général, on ne trouve plus de goût ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses créées. La personne qui est tiède ira justement se consoler dans les choses créées, mais la personne qui vraiment progresse spirituellement, bien, ne trouve pas non plus de goût dans les choses créées, parce que c'est vraiment le bon Dieu qu'elle aime. Et alors, elle ne trouve de consolation ni dans les choses créées, ni dans les choses de Dieu. D'où son état douloureux. Alors ensuite, lorsqu'on est dans cet état, on se souvient ordinairement de Dieu avec sollicitude, et l'on se préoccupe de ce qu'on ne le sert pas, mais qu'on recule plutôt à ses yeux, du fait qu'on n'a plus de goût pour les choses divines. Et on a l'impression de reculer, parce qu'on n'a plus ce goût qu'on avait au départ. La préoccupation que l'on a de servir Dieu montre que cet état ne vient pas de la tiédeur. Tant qu'on se maintient ce vif désir de Dieu, l'effet purificateur continue. Et alors, comment expliquer cette sécheresse ? Eh bien, c'est que le bon Dieu, comme je le disais, essaie de se manifester à nous d'une façon différente. Au début, il se manifestait d'une façon plus sensible, et ensuite, il essaie de se manifester d'une façon plus intérieure. Un petit peu comme le petit enfant qui commence à goûter la nourriture solide, il n'en a pas l'habitude, alors il pleure. Eh bien, c'est un petit peu pareil que le bon Dieu agit avec nous un petit peu de la même manière. Le bon Dieu nous visite, mais d'une façon plus spirituelle et plus détachée des sens, si bien qu'on se sent perdu. Et saint Jean de la Croix, dans La Nuit Obscure, explique que la nourriture intérieure qui est donnée ainsi à nos âmes est si délicate que d'ordinaire, si l'âme a le désir de la sentir, elle ne le sent pas, comme l'air un petit peu qui échapperait de notre main quand on la ferme. On voudrait sentir l'air, alors on ferme la main, et puis il nous échappe. Donc plus on veut sentir, puis moins on sent. Donc il faut patienter. Alors, dernier signe que je disais, qui est plus difficile à la fois expliquer et puis peut-être à ressentir, c'est cette incapacité de méditer ou de raisonner comme auparavant à l'aide de l'imagination. La raison est que Dieu commence à se communiquer non plus par les sens, mais au moyen du pur esprit, par l'acte de simple contemplation. C'est la différence qu'il y a entre la méditation et la contemplation. La méditation consiste à prendre un texte. En lisant ce texte, petit à petit, on essaie de savourer le sens des mots. Et ensuite, quand on a épuisé à peu près ce que l'on peut sentir, on va un petit peu plus loin. Et on fait la même chose. C'est ce que disait Saint François de Sales. Prenez l'exemple de l'abeille qui butine, qui va de fleur en fleur. Tant qu'elle y trouve du goût, elle y reste. Et puis après, elle va plus loin. Bien, ça, c'est la méditation. Tandis que la contemplation, c'est un acte plus... un petit peu comme on contemple un beau paysage et qu'on est satisfait par l'ensemble du paysage sans regarder chaque détail les uns après les autres. Et bien là, c'est pareil. Quand on est en présence de Dieu et qu'on est rempli de cette présence de Dieu, c'est la contemplation. Donc, il y a deux signes dans cette transition de vie spirituelle. Deux signes négatifs, donc d'abord l'aridité et la sécheresse sensible, la difficulté à méditer de façon raisonnée, et deux signes positifs, d'abord le vif désir de Dieu, et ensuite un début de contemplation. Et ici on peut dire que se vérifie cette parole de saint Augustin, enfin d'abord que saint Augustin attribuait à Dieu, en disant « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Le signe qu'on cherche vraiment le bon Dieu, c'est qu'on l'a déjà trouvé. Si le bon Dieu n'était pas déjà présent en nous de quelque manière, on ne le rechercherait pas. Et ça doit être notre consolation. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Mais le bon Dieu étant tellement grand, tellement au-dessus de nous, qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Donc le signe qu'on est dans la bonne voie, eh bien, c'est qu'on persévère dans l'aridité. Alors comment se conduire dans la nuit des sens ? Eh bien, comme la nuit succède au jour et le jour à la nuit, il convient que nous ne restions pas toujours dans la consolation, mais que nous connaissions les épreuves spirituelles. Il y a tout un chapitre de l'imitation de Jésus-Christ qui le rappelle, que même les plus grands saints, qui ont eu de grandes communications avec Dieu sont tous passés par ces phases de consolation et de désolation. Et il est nécessaire que nous connaissions des nuits suffisamment prolongées afin que nous puissions prouver le degré de notre vertu. C'est toujours comme ça. La vertu de force ne se reconnaît pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. C'est quand ça va mal qu'on mesure le degré de notre vertu. Quand tout va bien, on ne peut pas connaître le degré de notre degré de charité, ni le degré de notre vertu de force. C'est quand ça ne va pas, quand on voit comment on réagit quand ça ne va pas, qu'on peut savoir si on est patient, si on n'est pas. Il faut avoir des occasions d'exercer cette vertu pour connaître son degré. Et d'où la nécessité de ce combat spirituel. Alors maintenant, quelques règles à suivre de direction concernant cette période dans la nuit des sens. Première règle, d'une façon générale, il faut essayer, quand on est dans cette période difficile, de trouver un directeur spirituel. Si, quand on est commençant, quand tout va bien, on n'en a pas trop besoin. Après, dans la deuxième période, en général, c'est surtout une période de transition qu'on a besoin d'un directeur, mais aux autres périodes, c'est moins nécessaire. Mais là, c'est important. Saint Bernard disait, celui qui se dirige lui-même se fait le disciple d'un sot. Alors, on est difficilement juge et parti en même temps, donc on a besoin d'un guide. Et aussi parce que souvent, dans cette période, on a des tentations, et que très souvent, le démon, il suffit qu'on dévoile ses tentations pour qu'il s'enfuit. Alors, au lieu de rester avec des doutes dans son esprit, mais il vaut mieux les communiquer. Dans ce livre du père Rambaud, Pour la vie intérieure, écrit par un dominicain, au hasard, il a un chapitre sur la direction spirituelle. Il dit, est-ce que la direction spirituelle est absolument nécessaire? Alors, il répond qu'il faut répondre, enfin, grave et très complexe question. Comme tant d'autres difficiles questions, trop souvent résolues, soit pour, soit contre, de tranchante façon et pour cause. Alors, tout d'abord, n'hésitons point à avancer que la direction spirituelle n'est pas absolument nécessaire. Rien dans le Saint-Évangile, rien dans la doctrine de l'Église qui en fasse une condition de salut. Affirmer le contraire serait une erreur. Mais ajoutons aussitôt que si la direction spirituelle n'est pas absolument nécessaire aux chrétiens, elle est en soi moralement nécessaire à toute âme qui veut sérieusement avancer dans les voies surnaturelles. C'est là le sentiment de l'Église, l'opinion unanime des saints, de tous les maîtres de la vie spirituelle. Et qui, soutenant le contraire, pourrait prétendre avoir raison contre de telles autorités? Ce ne serait qu'offensante témérité et dangereuse illusion. L'histoire de Saint Paul n'offre-t-elle pas, d'ailleurs, une base toute divine à la doctrine affirmant la nécessité morale d'un guide pour avancer dans les voies spirituelles? Terrassé sur le chemin de Damas, Saul s'écrie « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Rien de plus facile au Christ qui lui apparaît de lui révéler en un instant. Mais non. Jésus l'envoie à un intermédiaire qui lui-même, divinement éclairé, lui donnera la lumière désirée. Donc il va voir Ananie. Entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. Et détail caractéristique, lorsque Saul se jette aux pieds d'Ananie, voici que de ses yeux, depuis 3 jours fermés à la lumière, tombent des écailles. Il voit. Je suis venu, avait dit Ananie en entrant, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Combien qui, s'ils avaient leur Ananie, auraient moins d'écailles sur leurs yeux, seraient davantage sous l'action du Saint-Esprit. La direction est donc le moyen normal de progrès spirituel. Alors souvent dans cette période également, il peut y avoir des tentations à la fois contre la vertu de chasteté et contre la vertu de patience, puisque ces deux vertus ont leur siège dans la sensibilité qui justement est attaquée et purifiée à ce stade de la vie spirituelle. Deuxième règle, après se faire suivre par un directeur spirituel, garder confiance. Et surtout ne pas croire que l'oraison est inutile, mais persévérer dans l'humilité, l'abnégation et la confiance en Dieu. C'est un petit peu comme quand on fait une ascension en montagne, et s'il y a un passage difficile, eh bien, il faut éviter de revenir en arrière, sinon on perd tout le fruit de son effort. Il faut persévérer, et puis continuer à avancer en pensant qu'après ce sera plus facile. Et puis il faut se rappeler aussi, quand on a des périodes difficiles et qu'on est tenté de tout abandonner, que si on refuse cette purification sur cette terre, on devra la subir dans le purgatoire, n'importe comment. Il n'y a pas 36 solutions. La seule différence, c'est qu'ici, on peut mériter, c'est-à-dire tandis que dans le purgatoire, on ne peut pas mériter. Et je pense que l'un des grands intérêts de ces conférences spirituelles, même si vous n'aurez pas suivi dans le détail tout ce que j'aurais pu dire, c'est de comprendre, de vous faire comprendre de la nécessité de la croix pour arriver à la sainteté. Et c'est une conséquence du péché originel. La première année, on avait étudié le péché originel, on a vu les traces que le péché originel avait laissées en nous. Alors s'il est vrai que l'homme, depuis le péché originel, a vraiment cette propension au mal et que ce sont toutes ses facultés qui sont non pas annihilées mais amoindries, il est nécessaire pour contempler Dieu face à face, c'est pas rien, contempler Dieu, voir le bon Dieu pour l'éternité, jouir du bonheur de Dieu pour l'éternité, eh bien qu'il est nécessaire que l'on soit absolument pur. Rien d'impur n'entrera au ciel, rien de souillé. Donc la moindre souillure, la moindre tache devra être effacée, ou dans ce monde ou dans l'autre. Et c'est sûr que aussi bien la raison qui vient au secours de la foi appuie cette nécessité de la purification. Et donc il ne faut pas se décourager. Et alors le père Garrigou-Lagrange, donc c'est pas moi, prend une comparaison que certaines personnes ici, je pense, comprendront tout de suite. Quitte-t-on le dentiste dès qu'il commence à vous faire souffrir pour vous guérir? Enfin, c'était une image, on aurait pu prendre une autre. Troisième règle. Vu les difficultés dans l'oraison, se contenter d'un regard affectueux et tranquille vers Dieu. Très souvent, c'est comme ça, quand on a du mal, surtout certaines personnes, on a tendance à se tendre intérieurement, avoir une certaine tension intérieure, ou se crisper parce qu'on ne voit plus le bon Dieu. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut patienter et puis et faire des actes de foi. Mon Dieu, je ne vous vois pas, mais je crois en vous. Et c'est pareil dans les retraites d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de sécheresse dans les retraites, mais c'est pas parce qu'on va se crisper que le bon Dieu viendra plus vite en nous. Le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Il est bien au-dessus de nous. On n'est que des pauvres petits êtres humains. Alors quand il veut bien se manifester, eh bien, Deo gratias. Mais s'il ne veut pas, eh bien, patience. Le but de l'homme, c'est surtout de se préparer à le recevoir, mais c'est le bon Dieu qui se communique à nous quand il veut et comme il veut. Quatrième règle, abandonner le désir de sentir la présence de Dieu pour satisfaire son goût. Toute cette agitation à rechercher la sensation d'aimer Dieu et d'être aimé de lui ne fait que troubler l'âme au lieu de l'apaiser. Plus on cherche de goût et plus on sentira le vide. Et si toutes ces règles étaient mieux connues, je suis sûr qu'il y aurait moins de personnes qui tomberaient dans l'écueil, par exemple, du mouvement charismatique, qui est un mouvement qui est essentiellement basé sur du sensible. Ce n'est pas une affaire de sens, de sentiment. La foi est au-dessus des sentiments. Croire, c'est accepter de ne pas voir. Donc, en un mot, ne pas chercher à sentir le don de Dieu. Ce regard de foi permettra au Saint-Esprit de l'éclairer et l'aidera à grandir dans l'amour de Dieu. Et alors commence à se réaliser cette parole de notre Seigneur. Le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il arrive aussi, malgré tout, que même dans cette période de la vie spirituelle, il puisse être bon de recourir à un livre pour méditer, si on a plus de mal à contempler. Les épreuves qui accompagnent ordinairement la nuit des sens. Nous l'avons dit, tentation contre les vertus de pureté et de patience qui ont leur siège dans la sensibilité. Le but, c'est d'affermir ces vertus afin de soumettre les passions à la raison. Et sans ces tentations, eh bien, nous nous contenterions sans doute de moindres efforts, d'actes moins vertueux, moins élevés. Et c'est pour cela que le bon Dieu permet que l'on soit tenté. Et c'est sûr qu'il y a des âmes qui viennent nous voir, qui ne comprennent pas, alors qu'elles ont commencé à progresser spirituellement, elles se sentent accablées par ce genre de tentations qui les font beaucoup souffrir, alors que de fait, c'est normal. Le bon Dieu le permet pour notre purification, permet qu'il en soit ainsi. Et ceci explique très bien cette parole de Dieu à Tobie. Parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que la tentation t'éprouvât. Parce que tu étais agréable à Dieu. Alors qu'en général, on agit à l'inverse, on dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que le bon Dieu m'envoie encore cette tuile ?» Et également, dans le livre de l'Ecclésiastique, il est écrit « Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il ?» La tentation nous oblige donc à prier, à supplier Dieu de venir à notre secours, à mettre en lui et non pas en nous notre confiance. Et c'est pourquoi Saint Jacques écrit, donc l'apôtre Saint Jacques, disait ça à ses fidèles, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais « Ne voyez qu'un sujet de joie dans les épreuves qui tombent sur vous. » Je vous demande de la résignation déjà, l'abandon, l'acceptation surnaturelle. Mais lui, il allait plus loin. « Ne voyez qu'un sujet de joie dans les épreuves qui tombent sur vous. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, que celle-ci s'accompagne d'œuvres excellentes afin que vous soyez parfaits. » Souvent, à ces épreuves, le bon Dieu permet que s'en ajoutent d'autres. La perte, par exemple, de certains biens temporels, de certains honneurs ou d'amitiés auxquels on s'arrêtait trop. Et Dieu vient nous demander ce détachement. Ou encore, il peut permettre que nous tombions malades nous-mêmes, afin de nous faire voir que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Alors, les effets de cette purification, pour ceux qui l'acceptent, qui sont généreux, eh bien, c'est une connaissance plus profonde à la fois de Dieu et de soi-même. Écoutons encore Saint Jean de la Croix. Une fois que l'âme privée de consolation se trouve réduite à l'habit de travail, à la sécheresse et à l'abandon, elle entre en possession réelle de cette vertu excellente et indispensable, la connaissance de soi-même. Eh oui, les gens du monde ne se connaissent pas, ça c'est sûr. Et même malheureusement, nous ne connaissons pas nous-mêmes encore suffisamment. C'est pour ça que j'avais intitulé aussi ces conférences, c'était parti cette citation de saint Augustin, « Que je me connaisse et que je vous connaisse, puisque les deux vont de pair. » Plus on se connaît, plus on connaît ses faiblesses, plus on peut s'appuyer sur la force de Dieu. Mais très souvent, eh bien, les gens du monde vivent d'une façon absolument indépendante, comme s'ils étaient seuls à décider de leur avenir, comme si la providence n'existait pas, comme si le bon Dieu n'avait pas un dessein particulier sur eux. Et c'est la connaissance de soi-même qui ensuite permet la connaissance de Dieu. Les deux vont de pair. L'âme comprend alors que de soi, elle ne fait et ne peut rien faire. Par elle-même, elle ne s'estime plus en rien et ne trouve en soi aucune satisfaction. Alors Dieu l'estime davantage. C'est dans la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. L'âme est alors éclairée sur sa misère et sur l'infinie grandeur de Dieu. Alors l'âme grandit dans la charité divine, car elle n'agit plus pour satisfaire son goût, mais pour Dieu seul. Donc, la moralité, eh bien, essayer d'accepter les purifications de cette vie, si on ne veut pas faire un purgatoire qui soit trop long. Alors l'âge des progressants, alors là je serai bref, puisque c'est une période dans la vie spirituelle où on n'a pas de difficultés, où tout va bien. Une fois qu'on a passé cet étage, et en général, le bon Dieu nous laisse tranquille, au moins un certain temps. Alors, à cette période de la vie spirituelle, on a une connaissance de Dieu qui est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profonde. Le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit étant plus nette, nous arrivons à pénétrer en un seul instant, plus que par l'étude laborieuse de nombreux ouvrages de mystique ou de théologie. C'est ce qui explique qu'on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour être... pour avoir la science de Dieu. L'étude peut aider, mais c'est pas... Le Saint-Esprit peut se communiquer à nous d'une façon beaucoup plus profonde. Ces lumières nous portent alors à aimer Dieu d'un plus grand amour en cherchant à imiter ses vertus. Et oui, le signe qu'on aime bien le bon Dieu, c'est le signe qu'on a le désir et le souci de l'imiter. L'amour affectif doit conduire à l'amour effectif. Alors, dernier stade de purification, la purification passive de l'esprit. Sans doute que vous me direz, bah, après ces purifications, ça y est, c'est terminé maintenant. On est tranquille. Eh bien non, il faut encore aller plus loin. Courage. Notre Seigneur a dit, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. Une fois déjà, nous en avions parlé. Notre Seigneur qui émonde la vigne comme les sarments afin de porter plus de fruits, eh bien, quand on taille, ça fait mal. Quand on coupe, ça fait mal. Et pourtant, il faut passer par là. Si le bon Dieu coupe, c'est pour que nous portions plus de fruits. Toutes les tribulations et tentations sont là pour nous faire grandir dans la charité. Ainsi fut purifié le saint homme Job, lui qui disait « Militia est vita hominis super terram » « La vie de l'homme sur la terre est un combat. » Ce fut également le cas des apôtres lorsqu'ils se réunirent au Cénacle après l'ascension pour se préparer au combat qui devait s'achever par leur martyre. Je vous avais dit la dernière fois que dans les trois âges de la vie spirituelle, le premier âge, chez les apôtres correspondait à la première période de la vie publique de notre Seigneur jusqu'à la Passion. Ensuite, la Passion, c'était la transition entre le premier âge et le second âge. Le second, c'était après la résurrection, donc l'illumination en voyant notre Seigneur et la vie avec notre Seigneur. Et enfin, troisième âge de la vie spirituelle, après la Pentecôte, au moment où ils ont reçu le Saint-Esprit. Notre Seigneur avait bien dit à Saint-Pierre avant sa passion, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Eh bien, quand on crible, ça fait mal aussi. Alors, quels sont les défauts des avancées, on va se dire, après toutes ces purifications, ces gens-là, ils doivent être parfaits. Eh bien non, il y a encore des défauts. Les défauts des avancées, les tâches du vieil homme restent encore dans l'esprit comme une rouille qui ne disparaîtra que sous l'action d'un feu purificateur. Elles se manifestent par les distractions indirectement volontaires dans la prière, par l'épanchement inutile au dehors. Ce sont des exemples. Des sympathies trop humaines pour certaines personnes, ce qui entraîne pour d'autres une mésestime, plus ou moins contraire à la justice et à la charité. Une rudesse naturelle suite au péché d'impatience. Une illusion par rapport à certaines communications spirituelles. Des fausses prophéties qui font le jeu du démon. Ou parfois le zèle amer, les remontrances hors de propos. Ou encore une forme d'orgueil ou de présomption spirituelle. Un attachement excessif à son propre jugement, qui se manifeste soit par une forme d'autoritarisme ou d'indulgence excessive. Et après, il peut y avoir encore d'autres défauts en fonction de l'état de vie où l'on est, si on est religieux, laïque, personne mariée ou vivant seule, suivant nos devoirs d'État. Nécessité, comme le dit saint Jean de la Croix, de la forte lessive de la nuit de l'esprit. Donc après la lessive de la nuit des sens, il faut encore la lessive de la nuit de l'esprit. Et après, on sort plus blanc que blanc. Sans quoi la pureté requise pour l'union à Dieu fera toujours défaut. C'est l'hiver spirituel avant la germination d'un nouveau printemps. Et saint Augustin disait, lui qui avait conscience de cette nécessité de cette purification, parole courageuse, que je ne vous demande pas de réciter tout de suite, hein. Enfin, ça dépend où vous en êtes. Ici-bas, Seigneur, brûlez, coupez, n'épargnez pas, pour que vous épargniez dans l'éternité. Je dis, on peut le faire, mais avec conseil, parce que. En général, le bon Dieu, il ne nous écoute pas toujours, mais en général, quand on fait ce genre de prière, là, on est exaucé. Et alors après, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eh bien non. C'est encore le fond de la volonté qui a besoin d'être purifié. Il y a encore une conversation avec nous-mêmes, au lieu d'être une conversation perpétuelle et continuelle avec Dieu. Il y a encore un égoïsme, encore inconscient, surtout au temps de l'épreuve, une forme de repli sur soi ou de recherche de consolation humaine. Donc nécessité de cette purification passive de l'esprit pour faire disparaître ce qui reste encore en nous d'orgueil. Et ici le père Garrigou Lagrange dessinait deux arbres. L'un qui représente l'arbre de l'homme qui vit avec les séquelles du péché originel, et puis ensuite l'homme qui vit sous l'influence de Dieu. Alors nous avons un mauvais fond en bas, qui se manifeste par l'égoïsme et l'orgueil, ainsi que par la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et ensuite tout cela donne comme fruit eh bien, les sept péchés capitaux, la luxure, la gourmandise, la vanité, la paresse, l'envie, la colère, l'avarice. Ensuite ça va jusqu'à l'aveuglement de l'esprit, la discorde, la rancœur, l'endurcissement de cœur. Ensuite ça va jusqu'au blasphème, la haine de Dieu et le désespoir. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un autre arbre. Le fondement, c'est l'humilité. Et ensuite, les premières branches en bas, ce sont les vertus cardinales de force, de tempérance, de prudence et de justice. Et puis en haut, la foi, l'espérance et la charité, qui se développent par les dons d'intelligence, de sagesse et de science, et ensuite qui donne comme fruit la contemplation, l'union à Dieu continuelle et l'abandon. Alors voilà, il y a les deux cités là, celle de Satan et la cité de Dieu. Mais alors pour arriver là, eh bien, on a toute la vie devant nous, quoi. Alors en quoi consiste cette purification ? Eh bien c'est la purification des vertus théologales, comme je l'ai dit tout à l'heure, de foi, d'espérance et de charité. L'âme endure une souffrance intérieure analogue à celle que nous avons face à une trop grande lumière. Quand on est ébloui par une grande lumière, on a un sentiment de malaise. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Elles sont comme aveuglées. La lumière de Dieu leur paraît trop forte, si bien que ça entraîne un aveuglement. Il arrive souvent que les âmes ont alors une tentation face au mystère de la prédestination. Je vous ai parlé d'une sainte personne que je connais qui connaît en ce moment ce genre d'épreuve, qui est le signe de sa sainteté et en même temps de la purification qu'elle endure. Elles ont l'impression de descendre au lieu de monter, comme tout à l'heure. On a toujours l'impression, dans ces périodes de transition, de reculer. En cet état, souvent le bon Dieu leur fait connaître leurs défauts avec plus d'acuité, ce qui les fait souffrir davantage. Parce que plus on aime Dieu, plus on souffre de ses défauts. Non pas par coquetterie spirituelle, mais au contraire, parce qu'on sait qu'on fait de la peine au bon Dieu. Parce que le plus grand mal, c'est le péché. Alors l'âme, plus elle s'avance vers Dieu, plus le péché la fait souffrir. Et l'âme souffre d'autant plus qu'elle ne peut comprendre que Dieu, qui est si bon, l'éprouve de cette manière. Au fur et à mesure que l'âme se rapproche de Dieu, elle a de plus en plus cette certitude de l'amour de Dieu. Alors elle ne comprend pas comment le bon Dieu, qui puisse être si bon, puisse d'un côté l'éprouver de telle façon. Elle voudrait expérimenter la bonté divine par la consolation, mais cela lui est caché. Et après, cette souffrance va encore augmenter par la crainte de consentir aux tentations qui se présentent contre la foi, l'espérance et la charité. Elle a l'impression qu'elle manque de foi et peut-être de péché contre la foi. Alors ça la fait encore plus souffrir. Et ainsi des autres vertus. L'âme voit bien qu'elle résiste quelquefois aux tentations, mais d'autres fois, elle craint d'avoir consenti. Et cette crainte la met alors dans l'angoisse. Car en cet état, l'âme aime déjà beaucoup notre Seigneur et ne voudrait pour rien au monde offenser sa majesté. Alors à ce stade, très souvent, le sommet de l'âme est bien uni au bon Dieu, mais la partie inférieure reste troublée. Il y a alors en elle comme un flux et reflux. D'un côté, il y a cette attirance de Dieu, et puis d'un autre côté, elle se sent indigne de Dieu, parce qu'elle constate de misère en elle. Alors quand l'âme est dans cet état, le directeur spirituel, et ça c'est pour notre humilité, ne peut apporter aucune consolation à l'âme ainsi affligée. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix dans La Nuit Obscure. Comme le dit le père de Caussade, c'est pas Camarziac, c'est son nom, l'esprit qui désole est le seul qui puisse consoler. La Sainte Écriture le répète souvent. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il mortifie et il vivifie, il appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Comme c'est une peine intérieure qui est donnée par Dieu, seul Dieu peut combler le vide. La confirmation de cette purification de l'esprit, eh bien, c'est par le dogme du purgatoire, comme je disais tout à l'heure, qui nous fait dire que rien de souillé, comme c'est dans la Sainte Écriture, n'entrera au ciel. Et on voit ici une analogie par rapport à la nuit sensible. C'est toujours très curieux de remarquer que la nuit, on voit plus loin que le jour. Les étoiles sont beaucoup plus loin que ce que nous voyons dans la journée. Et bien là, c'est pareil. C'est dans la nuit qu'on peut se rapprocher davantage de Dieu. C'est dans la nuit qu'on voit le plus loin, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors, conduite à tenir dans cette période de purification de l'esprit, eh bien, c'est l'acceptation généreuse et l'abandon à la volonté divine. Plus vite on l'accepte, plus vite elle finit. Et très souvent, plus elle est intense, plus elle est brève, comme au purgatoire. Certains ont un purgatoire plus long que d'autres, avec des douleurs moins intenses, et d'autres ont des douleurs qui sont plus vives et c'est plus court. Je ne sais pas si le bon Dieu te demande de choisir. Ça va être en fonction de nos fautes et en fonction de Dieu. Mais parfois, ces douleurs sont quand même plus longues, surtout quand les âmes ont à souffrir en plus pour les pécheurs, en dehors de leur purification personnelle. Alors, comment faire par rapport à la foi? Eh bien, il faut croire fermement en l'efficacité de la croix purificatrice, croire en la nécessité de la croix, contempler la passion, espérer contre toute espérance, et l'amour de conformité et de soumission au bon plaisir de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, comme disait notre Seigneur. Et à ce stade, alors, on peut demander l'amour de la croix. Et après, voyons quand même le but à atteindre, l'âge spirituel des parfaits. Alors, il y a là, en ce moment-là, une connaissance quasi expérimentale et presque continuelle de Dieu. Alors que l'égoïste pense constamment à lui-même, le parfait pense constamment à Dieu, à sa gloire, au salut des âmes. Cette vertu surnaturelle était constante dans la Sainte Vierge et se voyait également à un moindre degré en Saint Joseph et chez les apôtres et se remarque chez tous les saints. Les parfaits se connaissent eux-mêmes non plus seulement en eux-mêmes mais en Dieu. Il faut arriver à se connaître en Dieu. Et c'est sûr que c'est vers là que l'on doit tendre. Les anges d'ailleurs se connaissent en Dieu. Les esprits se connaissent en Dieu. Et l'homme, comme il doit se spiritualiser petit à petit, il doit se connaître en Dieu. Se voir comme le bon Dieu nous voit. Arriver à avoir la connaissance de nous-mêmes que le bon Dieu a de nous. Très souvent, on est dans l'illusion. On se prend pour ce que l'on croit être, enfin, ce qui paraît de nous, alors que la réalité est bien différente. Alors, il faut essayer d'arriver à fuir cette illusion et à se rapprocher un petit peu plus de la réalité, en reconnaissant à la fois notre indigence et en même temps en reconnaissant la bonté infinie de Dieu, qui, malgré notre indigence, nous aime. Et même en raison de notre indigence, parce qu'il est là pour combler cette indigence. En ce moment-là, les parfaits ne se découragent pas de leurs fautes, mais en tirent une humilité plus vraie. Ils se considèrent comme des serviteurs inutiles, mais dont Dieu se sert pour accomplir de grandes choses. S'ils voient les fautes du prochain, ils pensent qu'il n'est pas de péché commis par un autre qu'ils ne soient capables de commettre eux-mêmes, s'ils avaient la même hérédité et placés dans les mêmes circonstances, devant les mêmes tentations. Et s'ils voient des grandes vertus chez les autres, eh bien ils se réjouissent en se rappelant qu'une âme qui élève, élève le monde, et donc le corps mystique de notre Seigneur, se développe ainsi de jour en jour, et cela est pour elle une occasion de joie, et non pas de jalousie. Étant presque constamment établies en Dieu, ces âmes gardent presque toujours la paix au milieu des circonstances les plus pénibles. Le signe qu'on est arrivé là, c'est le signe qu'on est en paix, dans la paix la plus profonde au milieu des circonstances les plus troublées. Les plus pénibles et les plus imprévues. Une circonstance pénible mais qui est prévue, bon, on peut encore arriver à faire face. Mais quand c'est pénible et que c'est pas prévu, alors là c'est... Et le signe également qu'elles sont vraiment saintes, eh bien c'est le signe qu'elles soient capables de communiquer aux gens qui les entourent, aux personnes les plus troublées, qui communiquent une certaine paix. Et c'est normal, puisque la béatitude des pacifiques correspond au don de sagesse qui domine chez les parfaits. Vous savez que On dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Il y a 7 dons du Saint-Esprit. Le don le plus grand, le plus élevé, c'est le don de sagesse. Eh bien, dans la mesure où on est arrivé à ce stade de la vie spirituelle, en ce moment-là, on a cette paix, cette paix qui rayonne. Béatitude et pacifique. Et en ce moment-là, bien l'âme fait l'expérience, alors là, habituelle, de la présence de la Sainte Trinité en elle. Comme les disciples d'Emmaüs qui disaient « Est-ce que notre cœur ne brûlait pas en nous lorsque le Maître nous parlait en chemin ?» Alors, conclusion générale sur ces deux conférences. Eh bien, c'est ce que disait Saint Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Y aurait-il des questions? Je sais que plus on avance dans la vie spirituelle, plus c'est difficile à décrire. Mais en tout cas, c'est la réalité. C'est sûr. Et on lisait toutes les vies des saints, vous verrez. Ça. Oui ?
Vous disiez qu'au purgatoire, on
va
non seulement expier ses fautes, mais celles des autres.
Ah non. J'ai pas dit ça.
On aurait pu le comprendre.
Non, j'ai dit que les gens qui sont sur la terre avaient des souffrances analogues au purgatoire et que ces souffrances étaient plus ou moins longues en fonction qu'elles auraient à souffrir simplement pour elles ou pour d'autres. Un Saint Curie d'Ars, par exemple, n'a pas souffert que pour lui. Quoi.
Il l'a demandé.
Ah, mais oui, bien sûr, oui, il l'a demandé. Hein. En général, à ce stade, les gens sont généreux.
Dieu vous expose des souffrances pour vous-même, mais il ne va pas vous imposer les souffrances et pour les autres, il ne vous les demandez pas.
Ça dépend, il peut les imposer. Enfin, pour les... Non, mais par exemple, un père peut souffrir pour ses enfants. Il n'a pas demandé que ses enfants tournent mal. Il souffre pour son enfant. C'est pas lui qui l'a demandé, ça. Donc, il arrive bien que des gens souffrent pour d'autres. Nous ne souffrons pas dans notre vie que de nos propres problèmes, que de nos propres difficultés. Voilà, d'autres questions ? Madame Brugère, pourriez-vous poser une question? Votre mari est en absent. Au confessionnal, bon. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser rentrer. En vous souhaitant un saint temps de la Passion. Et ensuite, de joyeuses Pâques. Et alors, la prochaine conférence, je ne sais plus, c'est au mois de mai, je crois, non? Non, ou avril. Avril, il y en a peut-être encore une à la fin du mois. Oui. C'est sûr. Qui est-ce qui doit venir déjà? Ah oui, ça, monsieur Jean Seigneur va venir. Mission et démission, c'est ça. Bon, de la mission à la démission.